Seigneur, nous te remercions pour ces temps dans lesquels tu nous conduis, Seigneur, pour nous mettre à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Chacun d'entre nous, moi y compris, et je te bénis parce que nous avons ta faveur, mais uniquement parce que Christ est passé au-devant. Uniquement parce que, Seigneur, nous ne voyons pas notre vie sans toi. Nous ne voyons pas notre vie, Seigneur, sans le centre que tu représentes, Seigneur. Sans le fait que tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie alors que nous étions éloignés de toi. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de nous avoir rapprochés, nous rapprocher encore, Seigneur, au travers de ta parole et de l'action de ton esprit. Au nom de Jésus, amen.
Amen.
Amen. Voilà, bon, on a parlé de Jésus, hein, qui est le pain de la vie. Donc, c'était bien de pouvoir introduire là-dessus, parce qu'effectivement, si nous avons la vie, et je ne dis pas juste uniquement le souffle que nous avons reçu, mais la vie de Dieu, la vie véritable, c'est parce que nous avons Jésus-Christ, nous avons pu pleinement profiter de cette grâce qui nous a faite de nous accueillir avec lui. Dès maintenant, nous avons accès au Père par Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté ce que personne ne pouvait accepter, il a accepté de donner sa propre vie pour nous. Alors que nous étions éloignés, alors que notre vie était éloignée de Christ, et si c'est encore le cas, je vous invite à méditer là-dessus et peut-être à prendre une décision par rapport à ça, parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons proches de lui. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons dans une relation avec lui qui soit dans cette proximité, dans une proximité et dans une relation qui est authentique, qui est véritable et qui est unique. Tout à l'heure, Nicole nous parlait de cette rencontre qu'elle avait faite avec Christ. Nous parlait de cette relation. Elle est venue en France et elle a rencontré Christ. Elle est venue en France, elle a découvert quelque chose d'extraordinaire. Et nous aussi, nous sommes au bénéfice de cette grâce qui est de pouvoir nous approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Son désir, c'est que nous puissions être remplis, comme on l'a chanté tout à l'heure, d'un souffle nouveau, pour une vie nouvelle, pour une vie renouvelée, et pour une profondeur dans la vie de Christ, qui n'est pas juste, qui ne se compte peut-être pas juste de commandements, tu feras ou tu ne feras pas, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois vivre ta foi. C'est pas ça. C'est le fait de vivre une vie véritable. Que celui qui a soif vienne à moi et je lui donnerai des sources d'eau vive. Quand on boit un verre d'eau fraîche, on n'est pas là en train de juste dire ouais, c'est bien, ça me fait du bien. On dit, ah, il y a quelque chose de profond qui sort en général quand on a soif, n'est-ce pas? Celui qui a soif et qui boit un verre d'eau, il ne va pas juste se contenter de faire comme on fait avec le vin, là, comme ça, de goûter le verre. Il va prendre cette eau-là et de lui-même va sortir. Parce que ça fait du bien. Parce que ça nourrit quelque chose en nous qui jusqu'à présent n'était pas nourri. Et Jésus, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il s'adressait à eux avec sévérité. Parce qu'il disait d'eux que ils disent aux autres de suivre des commandements, de suivre la loi, mais eux-mêmes ne le font pas. Eux-mêmes ne sont pas en mesure de suivre cette loi. Et lorsque Jésus il parlait, il disait qu'il nettoyait le dedans de la coupe et du plat, et qu'au dehors, au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. En Matthieu 23, Jésus parlait de ces hommes qui gardaient le secret de la loi pour eux, qui disaient aux autres, voilà ce qu'il faut faire, et eux-mêmes ne pouvaient pas le faire, parce que la loi n'accomplit pas les choses. Parce que par la loi démontre une seule chose, c'est que nous sommes incapables de répondre à ces demandes. Nous sommes incapables de nous approcher de Dieu uniquement en disant, je fais une chose ou je ne fais pas une autre chose. Voilà ce que je dois faire, les do's et les don'ts, c'est ça, en anglais. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. La loi nous montre que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu par des actes. Les actes sont bien. Le fait de faire l'action est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas le centre de ce que Dieu veut que nous comprenions. L'homme, peut vite se laisser prendre par des rituels, par une vie rangée dans laquelle chaque chose est à sa place. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça peut être bien. Mais attention, il ne faut pas déplacer. Et un jour, on dit, mais pourquoi tu as mis ça là? Je ne sais plus. Je ne sais pas, il faut que ce soit là. Il faut que cette pièce, elle se trouve là, il faut que lui... Et le but de Dieu, c'est que l'on comprenne, et c'est le sens de mon message aujourd'hui, qu'on comprenne le sens des choses, le sens de ce que Dieu veut nous dire. La parole de Dieu, telle qu'elle nous a été donnée, ne vaut rien si on est juste là en train de lire et de regarder, de dire, il a dit ça, il faut que je fasse ça. L'objectif de Dieu, c'est que l'on gagne en profondeur. Lorsque le prophète allait et rentrait dans l'eau, il avait de l'eau jusqu'aux genoux et jusqu'à un moment donné où il était dépassé par cette eau qui était grandissante. Et Dieu nous invite à nous plonger dans la source de la connaissance, dans la source de la compréhension de sa parole. Lorsque Philippe, l'évangéliste, avait été transporté par l'Esprit dans un endroit, je crois que c'était désertique, et qu'il a vu cette nue qui était là et qui marchait, il lisait la Torah. Et la question qu'il lui a posée, lorsqu'il s'est approché, il lui a dit, « Comprends-tu ce que tu lis ? » Comprends-tu ce que tu lis ? Il y a des gens qui étant religieux, lisent un texte, le récitent, et croient que ça va arranger les choses, comme par magie. Croient qu'en récitant un texte, ça va faire les choses comme ça. C'est le cas dans l'islam, c'est aussi ça. Où les gens, sans même savoir lire, ils savent à peine déchiffrer l'arabe, ils savent à peine déchiffrer, sans même comprendre tout ce qui est dit, ils le disent, ils le récitent. Et il ne faut pas nous non plus tomber dans ce piège-là, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous rentrions en profondeur dans ce que lui a voulu nous dire. Quand Dieu parle à Moïse et lui demande à propos des commandements, tu les attacheras pour te servir de signe et tu les porteras en frontaux entre tes yeux. Tu les attacheras à tes mains. Tu porteras en frontaux. Quand on voit aujourd'hui, les juifs se mettent, donc il y a les phylactères, il y a tous les tfilim, il y a tout ça. Ils se mettent tout un tas de choses et on le voit aussi, ils se mettent sur le front. Tout ça de manière très littérale. Mais lorsque Dieu parle de ces choses-là, il n'était pas forcément en train de dire « tu vas t'attacher physiquement quelque chose ». Aujourd'hui, on peut s'attacher quelque chose, mais ça, le sens de ce qui était porté derrière, par rapport à la main, un acte de justice, l'action que porte la main, des actes de justice, de miséricorde, de compassion, les yeux et le regard, la pensée, qui doivent suivre cela, qui doivent suivre ce chemin-là, de miséricorde, de compassion, d'authenticité, de vérité. Ce sont le sens que Dieu veut donner à ces choses-là. Ne pas suivre uniquement les signes, mais ce qu'il y a derrière les signes. Et quand moi je parle à mon enfant et je lui dis « Mais là je ne suis pas content parce que tu fais ça, je t'ai interdit de faire ça. » Mon but à moi, ce n'est pas de lui interdire une chose, mais c'est de lui faire comprendre quelque chose, comprendre ce qu'il y a derrière. Peut-être qu'il n'est pas en âge, et à ce moment-là, il va suivre cette loi. C'est l'enfance. L'enfance de la foi suit la loi, suit ce que l'on dit, suit ce qu'il faut faire. Dieu dit ça, je fais ça. Mais à un moment donné, notre compréhension doit venir à maturité pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et si moi, à mon fils, je lui dis, attention, ne fais pas ça, sinon tu vas renverser le verre d'eau, et qu'il le fait, il se rend compte qu'il va renverser le verre d'eau, je ne suis pas content. Mais parce que derrière, le sens qui est porté, ce n'était pas juste de faire ou de ne pas faire, c'était la finalité. C'était la catastrophe qui pouvait s'en suivre derrière. Ce sont toutes ces choses-là dans lesquelles Dieu veut nous inviter pour comprendre le sens. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur en terminale qui m'a beaucoup marqué, j'en ai déjà parlé parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Et je lui ai dit aussi un jour, quand je suis venu à la foi, j'ai dit, il y a deux personnes qui ont changé ma vie. Il y a la première, c'est Jésus-Christ, et la deuxième, ben, c'est vous. Un jour, je la croisais au supermarché. Moi, je ne voulais pas faire des grandes études, etc. Elle a vu autre chose. Mais elle nous disait quelque chose Et bon, ça a changé les choses, mais elle nous disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui me parlait énormément. Elle nous disait, quand elle faisait cours, elle disait, il faut sentir les choses. C'est pas juste essayer d'appliquer une formule ou essayer d'expliquer, d'appliquer quelque chose. Le résultat sera le même. Mais essayer de sentir ce qu'il y a derrière. Et elle faisait comme ça. Et moi aussi, j'aimais bien ça. Sentir, c'est pas l'argent. Hein. C'est sentir ce qu'il y a derrière. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'apprendre quelque chose un peu comme ça, de manière bêta. On dit, il faut faire ça, vous l'apprenez, ok. Que ce soit ou d'essayer de comprendre quelque chose, administratif, à l'école, une équation, une formule, autre chose, peu importe. D'être là, en face de ça, vous ne le comprenez pas. Et vous réfléchissez, si on parle d'administratif, parce que c'est compliqué, bon, moi, là, du côté administratif, il y a des choses, des fois, je lis 3, 4 fois, 5 fois les textes. Et à un moment donné, c'est pas juste le texte qui parle, c'est ce qu'il veut dire. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est qu'à un moment donné, il y a ce qui a écrit, il y a ce qui est écrit, et il y a ce qui doit être dit, et qui fait que vous pouvez le répéter à quelqu'un d'autre sans avoir besoin du texte. Vous pouvez expliquer cette chose-là sans avoir besoin de tous les mots précisément ou autre chose. Parce qu'à un moment donné, ah, j'ai compris. Ça y est, il y a un truc là. J'ai une petite étincelle. Le sens des choses. Avec la parole de Dieu, avec la Bible, c'est aussi cet élément-là que Dieu veut creuser dans notre vie. Avoir, à un moment donné, cette petite étincelle qui fait que, effectivement, le passage dit certaines choses, et j'ai l'impression de saisir quelque chose d'autre derrière. Pas contraire, bien sûr, hein, parce que si on est contraire à ce que la Bible dit, ça ne va pas. Mais de saisir quelque chose d'autre derrière, une profondeur qui m'invite à aller plus loin, qui m'invite à la toucher du doigt. Suivre des préceptes, c'est bien. Et la Bible parle de ces préceptes, de ce conducteur, mais ce conducteur qui nous conduit jusqu'à Dieu et qui nous invite, non pas lui à se mettre en valeur, mais à mettre en valeur le message qu'il a apporté. À mettre en valeur ce que Dieu veut nous dire. Un précepte, un jour, il n'est plus là, et on retient les leçons de ce qu'il nous a donné. On dit 1+1, on ne sait même plus qui nous a appris 1+1. Bon, c'est peut-être un peu... Mais il y a bien d'autres choses, on ne sait même plus d'où on les a apprises. Parce qu'on les connaît, et l'essentiel, c'est ce que l'on connaît. Parce que tout ça constitue des béquilles. On est appelé à marcher, on est appelé à marcher de nous-mêmes, mais bien sûr, pour apprendre à marcher, pour apprendre à se lever, on a certaines béquilles qui sont là et qui nous aident à nous lever, à prendre le pas et progressivement à marcher de mieux en mieux, de plus en plus, et à sentir, dire, mais ça y est, j'ai compris pourquoi je marche, je sais où je vais, je sais comment j'y vais. Comprends-tu ce que tu lis? L'objectif de Dieu, c'est d'inscrire sa loi dans nos cœurs. C'est pas que la loi reste juste un texte comme ça qu'on lit, mais c'est que cette loi, et c'est très profond, je trouve. Inscrire sa loi dans notre cœur, ce que l'on a dans le cœur, c'est que ça sort automatiquement de nos propres vies. Quand on doit agir et quand on doit faire quelque chose et qu'on se pose la question, mais je sais qu'un chrétien, il ne doit pas agir comme ça, il ne doit pas faire ça comme ça, ou autre chose. On est dans le contexte de la loi. On est dans le contexte de ce qu'il faut faire. Et ça nous aide, ça nous aiguille, ça nous dirige. Parce que si on n'est pas dans le bon chemin par rapport à ça, on a besoin de ça. Mais l'objectif de Dieu, c'est que cette loi et ce texte rentrent dans nos propres cœurs et qu'il émane de nos propres vies comme de la sagesse, comme de la connaissance, comme de l'évidence. De sorte que nous ayons cette proximité, non seulement avec Dieu, mais avec sa pensée, avec ce qu'il désire, avec ce qu'il souhaite. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On a l'habitude de mettre des choses dans des cases. Comme je le disais tout à l'heure, ça s'est rangé là, ça s'est rangé là, ça s'est rangé là. Mais des fois, les limites ne sont pas aussi franches. On veut voir les choses, comme je le disais à un frère l'autre jour, souvent on voit les choses en blanc et en noir. Parce que, aussi, on parle du bien et du mal. Il y a le bien, il y a le mal, choisis ton camp, c'est évident. Parce qu'il y a une limite entre tout ça. Mais Dieu a créé l'arc-en-ciel. Dieu a créé les nuances, Dieu a créé le cheminement vers lequel on se dirige d'un endroit vers un autre. Et des fois, on met les choses en écart, on dit « voilà ce qui doit être fait », mais la nuance et la subtilité se trouvent dans le sens qui est porté derrière. Et c'est là, c'est ça qui peut nourrir notre vie. Lorsque Jésus se baladait et qu'il parlait, il était avec les disciples, et les disciples prenaient des grains dans les champs pour manger, il y avait rapidement les hommes de la loi qui étaient là et qui arrivaient et qui disaient « Mais voilà, regarde, c'est le jour de sabbat et tes disciples, ils sont en train de manger. Est-ce que c'est bien ? Regarde, ils prennent des choses. » Et Jésus a dit « Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. » Et à mettre les choses dans des cases, on inverse souvent la logique. On inverse la réalité. C'est que les choses ont été faites pour l'homme, mais l'homme, on cherche à le caser dans quelque chose, à l'inverse. Ainsi, d'une vision d'expansion, parce que nous sommes appelés à connaître, nous sommes appelés à découvrir, nous sommes appelés à rechercher, on en vient à une vision de restriction. Voilà quelles sont les limites et je ne les franchirai pas. Alors que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à découvrir. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe on ouvrira. Demandez et il vous sera donné. C'est-à-dire à dépasser les limites, dans le bon sens, hein. Je ne dis pas faire tout n'importe quoi, on s'entend bien. mais à dépasser, à ne pas se fixer de limites dans la connaissance de Dieu. Chercher, toujours chercher et découvrir. Comprendre et creuser. Aller en profondeur de ce que Dieu veut que nous comprenions. C'est comme ça que des fois on en vient à une pensée en noir et blanc. Au niveau de gris, peu importe, des fois il y a des petits niveaux quand même. Mais à une pensée qui est très tranchante. La seule chose avec laquelle Dieu est tranchant, c'est le péché. Le péché est une chose avec laquelle qu'il ne peut pas supporter. Mais il est rempli d'amour. Il est plein d'amour, il est plein de grâce. Et je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé de me sentir pécheur et de sentir derrière l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Me dire, mais ok, tu es en cheminement, t'inquiète pas. Viens vers moi, je demande pardon. Je demande pardon et je me réconcilie. Je regrette ce que j'ai fait, je regrette une telle ou telle action. Et c'est l'œuvre de l'enfant de Dieu de faire confiance à Dieu, de faire confiance à son Père, de comprendre que Dieu n'est pas contre lui, mais qu'il est pour lui. Et si on réfléchit chacun à notre propre vie, moi, quand j'ai réfléchi à ma propre vie, je suis venu un jour à Christ, oui, il y a cet tel jour-là, mais ce n'est pas ce jour-là que Dieu a commencé à travailler ma vie. Ce n'est pas ce jour-là que Dieu a dit, tiens, d'un coup, je t'aime. Ce n'est pas ce jour-là. Il m'aimait bien avant ça. Il nous aimait bien avant qu'on le connaisse, nous. Et il cherchait notre cœur, il cherchait une relation avec nous. Il cherchait à s'approcher de nous. Quand on lit un livre, moi si je lis un livre sur quelqu'un, c'est bien, il y a des gens qui vivent des relations qu'on appelle, je crois, épistolaires. Et ils vivent des relations à distance juste par lettre. Alors je dis, bon, c'est bien pour eux. Ils vivent des relations, je sais pas, d'amour, autre chose. Mais à un moment donné, moi si je lis un livre sur quelqu'un, je veux rencontrer cette personne. Tant que je n'ai pas rencontré cette personne, c'est d'accord, j'ai le livre, je sais, ça me parle de Dieu, ça me parle de tout, ça parle d'une personne. Mais à un moment donné, j'ai envie de la rencontrer, cette personne. J'ai envie de la voir en face. J'ai envie d'avoir une relation de proximité. Et on part à la recherche de cette relation. Quand on lit la Bible, si on lit juste la Bible pour partir à la recherche de ce que Dieu veut et de ce que Dieu ne veut pas, on va vite s'essouffler. On va vite s'essouffler et crouler sous un tas de choses qu'on devrait faire ou ne pas faire. Et à un moment donné, on va dire, ben, je ne peux plus, et puis on s'en va. Si on parle à quelqu'un de rencontrer, de venir à Dieu, et qu'on lui dit, voilà ce qu'il faut que tu fasses, voilà ce qu'il faut que tu ne fasses pas, on va vite le faire crouler sous quelque chose, sous des poids et des fardeaux, comme les pharisiens le faisaient, et comme c'est toujours le cas aujourd'hui, les juifs sont issus du pharisianisme. Parce que la relation avec Dieu est l'essentiel, basée sur la connaissance de la parole, bien sûr. Basé sur la connaissance, sur le fondement, sur le socle de la parole de Dieu, mais se poursuit aussi dans cette relation, dans une profondeur avec lui. Et de tout ça, ça trace la vision qu'on peut avoir de Dieu. Ça trace la vision de la manière dont on peut marcher avec lui. Et si je vous interroge tous là, je dis, mais comment est-ce que tu vois Dieu? Alors bien sûr, on va trouver des points communs par rapport à la Bible. Dieu est miséricordieux, Dieu est grand, Dieu est formidable. Mais après, c'est comment est-ce que tu vis ta relation? On va trouver des différences des uns aux autres. À dire, moi je l'imagine plutôt comme ça, je l'imagine plutôt comme ça. Notre vision est façonnée aussi par nos propres expériences de Dieu. Et Dieu ne se limite pas à nos propres expériences. On a tous tendance, dans cette relation, à émettre le reflet de qui nous sommes, de notre propre... Mais quand on part à la recherche de Dieu, on part à la recherche de quelqu'un d'autre, qui est proche de nous, mais duquel on a tout à découvrir. On a tout à découvrir, on a tout à vivre. Et nos vies, c'est souvent le cas quand il y a des gens qui disent « Je n'arrive pas à imaginer Dieu en tant que Père. » Peut-être par rapport à des relations difficiles avec le Père, peut-être à tout un imaginaire personnel. Notre propre vie a cette influence sur la vision dont on voit Dieu. Bon, mais si ce n'est pas Père, alors on peut imaginer Dieu en tant que Mère. Pourquoi pas? La Bible décrit en tant que Père, mais ça pourrait être aussi, on pourrait aussi en parler en tant que Mère. Celui qui prend soin de nos vies, celui qui nous prend dans ses bras, celui qui nous embrasse et qui prend en charge notre vie. Dieu nous connaît parfaitement, mais il se laisse aussi découvrir en dehors de nous-mêmes, en dehors de nos propres expériences, en dehors de qui nous sommes. Et pour ça, il faut pouvoir aussi se tourner vers l'autre, se tourner vers Dieu et le regarder et dire « Ok, parle-moi de toi. Parle-moi de qui tu es. Parle-moi au travers de la Bible. Parle-moi de toi. Moi, je parle beaucoup. Je prie beaucoup. Je fais tout un tas. Maintenant, je vais faire stop. Je vais faire pause. Parle-moi un peu de toi. » Et des fois, on peut avoir des réunions de prière comme on veut bien remettre ça en place dans l'Église parce qu'on a on a péché de ce côté-là, mais on peut avoir des réunions de prière, mais et soit on peut demander beaucoup de choses, mais on a besoin d'apprendre à découvrir Dieu aussi. On a besoin aussi d'apprendre à se laisser interpeller par Dieu sur qui il est et aussi qui nous sommes. Le laisser parler. Et la Bible le dit aussi, quand on prie, les pharisiens sont très là, ils prient beaucoup, ils parlent beaucoup. Mais laissez parler Dieu aussi dans notre propre vie. Laissez parler Dieu. Alors des fois on dit, mais quand même, je vais entendre une grande voix. Non, Dieu parle à nos vies, de la manière dont il le conçoit. Il ne parle pas juste à notre intelligence, il ne parle pas juste de manière avec nos paroles, il parle avec tout ce que l'on est. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, ce jour-là, je n'ai pas entendu une grande voix. Je n'ai pas entendu Dieu qui m'a parlé, il m'a dit, toi, mon fils, ça n'a pas été comme ça. J'ai eu l'impression que quelque chose changeait dans ma vie. Et pourtant, j'ai prié, toi, Dieu, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, mais bon, écoute, si tu existes, si tu fais quelque chose. Parce qu'effectivement, il y a des trucs dans ma vie, ça m'embête un peu, je ne sais pas. Mais j'ai envie de te connaître si vraiment tu existes. Et l'impression que j'ai eue, c'est très personnel, d'accord? Vous ne vivrez pas peut-être la même chose, mais moi, l'impression que j'ai eue, c'est comme si il y avait des bras qui m'entouraient. Et du coup, au fur et à mesure que je marchais, il y avait des situations devant moi qui s'écartaient. Comme si les bras, non seulement ils m'entouraient d'amour, mais en plus, ils écartaient les choses autour de moi. Ça, c'est l'impression intérieure que j'ai eue, une sorte de vision intérieure que j'ai eue. Dieu m'avait parlé sur ce qu'il faisait. C'était pas... Donc, chercher, comprendre, avancer avec Dieu pour le connaître et pour aller plus loin dans la relation avec lui. Le découvrir, lui, et pas uniquement au travers de ses lettres. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre en elle-même, c'est quelque chose qui nous conduit à la mort. Et la lettre n'est pas un mensonge. La Bible n'est pas un mensonge. Ce qu'elle dit est vrai. Mais la manière d'accomplir les choses ne peuvent pas se faire par notre volonté, ne peuvent pas se faire parce que j'ai compris et j'applique la Bible telle qu'elle est. Elle se fait parce que la vie de Dieu grandit en nous. La vie de Dieu grandit en nous.
Et quand la vie de Dieu grandit en nous, ne soyons pas étonnés de nous sentir pécheurs. Ne soyons pas étonnés, ne refoulons pas le sentiment de dire je me sens pécheur. Parce que quand j'étais jeune chrétien, je faisais mes premiers pas toujours, j'avais un ami, finalement j'avais rencontré quelqu'un avec qui je pouvais parler de Dieu et qui pouvait m'instruire aussi sur la parole de Dieu. Et je lui disais, mais c'est terrible! Au plus je prie, au plus j'ai envie de m'approcher de Dieu, au plus je sens que je suis pire, quoi. Au plus je sens que je suis pécheur, au plus j'ai l'impression d'être païen, quoi. Parce que les pierres remontent à la surface, mais Dieu les enlève, pour qu'on puisse les enlever. Donc ne nous étonnons pas de nous sentir pécheurs, parce que le chemin de la repentance, c'est le chemin de la vie pour nous approcher de Dieu. Pour écarter, non pas écarter, pour ne pas voir le péché de nos vies, mais le regarder au contraire en face et régler ce problème-là dans nos vies. Régler ça, ce problème-là. Christ est venu rétablir une relation brisée. Et il n'est pas venu uniquement pour qu'on dise de lui qu'il accomplit les prophéties. Quand il était venu, effectivement, quand on voit, il a accompli les prophéties qui annonçaient le Christ, qui annonçaient le Messie. Il devait souffrir à la croix, il devait mourir à la croix pour le péché de tous. Mais il n'est pas venu uniquement pour qu'on dise « Waouh, tu as accompli les prophéties, tu es extraordinaire !» Il n'est pas venu pour qu'on parle uniquement de ce qu'il a accompli, soi-disant d'extraordinaire. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Il est venu pour que la relation entre nous et Dieu soit brisée. Pour que ça soit restauré, excusez-moi. Pour que la relation soit restaurée. En tout cas, pour que la séparation soit brisée. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et pas uniquement par des lettres, par des paroles. Pas uniquement parce que ce qu'on comprend dans les mots, mais par le sens qui est porté derrière. Par la profondeur dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer. Pour comprendre. Pour comprendre sa parole au-delà des simples mots. Comprendre et adopter. Comprendre et se laisser inspirer par ça. Il n'a pas cherché à faire parler de lui, mais à accomplir sa mission. Donc la lettre tue, mais parce qu'elle révèle le péché. Parce qu'elle révèle notre péché. Parce qu'elle n'est pas une solution accessible en nous. Quand on voit ce qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu, selon la lettre, selon la loi. Quand on voit ce qu'il faut faire, on essaie d'en faire un pas, deux pas, trois pas, mais on n'y arrive pas. Et on se rend compte qu'on a besoin de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est par l'Esprit que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est par l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne du sens et de la profondeur à nos propres vies. Et l'Esprit est celui qui va puiser dans les profondeurs de Dieu, nous dit la Bible. C'est lui qui creuse dans les profondeurs de Dieu. C'est lui qui creuse pour nous les apporter et pour donner sens dans notre propre vie. Lorsque Jésus parle à ses disciples, il a dit dans Matthieu, tiens, on va ouvrir un peu la Bible, dans Matthieu 5, au verset 38 à 48, il a des paroles difficiles. Il a des paroles qui sont vraiment difficiles, même pour nous, si on réfléchit intellectuellement. Je vous mets au défi de voir ces paroles-là, de dire, ok, s'il n'y a pas de problème, je vais le mettre en pratique. Il a dit, donc Matthieu chapitre 5, verset 38, il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Ça, c'est la loi. D'accord? C'est la loi, c'est ce qui était enseigné. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, bras pour bras, etc. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, bien, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est la loi. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est écrit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque Christ parle de ça, il dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. La lettre, c'est le début de notre cheminement avec Dieu. C'est le début du cheminement avec Dieu. Mais lorsque Christ parle, les gens ont de quoi dire, mais Seigneur, tes paroles sont dures, qui peut les entendre, quoi? C'est quand même difficile. On comprend que les disciples, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, écoutez, si vous voulez partir, non, mais tu, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as les paroles de la vie éternelle. Et derrière ce que Jésus disait, il y avait une profondeur plus grande que juste les paroles. Lorsqu'il parlait de ça, il plaçait la barre haut. Et j'en parlais cette semaine avec un ami qui me racontait qu'il avait eu justement un échange avec ses copains, ses amis au travail, et qui sur ce passage-là, donc il avait donné son avis, parce que se tendre l'autre joue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vraiment littéral? L'intention qui est derrière, c'est ça que Dieu veut que l'on puisse avoir dans notre propre cœur, que l'on puisse saisir. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Si Christ est capable de pousser encore plus loin, c'est parce qu'il a compris, il a saisi le cœur de la loi. Le cœur de la loi, ce n'est pas dans ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. C'est dans cette relation et cette vie, c'est dans la compréhension de la pensée de Dieu qu'il y a derrière. C'est dans la compréhension de ce que Dieu veut nous dire. Et ça n'inhibe pas la loi. Il n'était pas en train de la contredire, mais il l'a poussé jusqu'à ses derniers retranchements. Pour comprendre, vous ne pouvez pas être justifié par la loi. Vous ne pouvez pas être justifié par ces cases que vous mettez dans votre vie et dans lesquelles vous êtes bien confortablement en disant « Moi, je suis là, je suis juste devant Dieu. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est en avançant, en progressant dans Dieu, en cherchant, en recherchant. Il y a de quoi chercher et chercher. On n'arrive jamais à la fin de la compréhension et de la connaissance de Dieu. Il y a de quoi toujours chercher. Et au plus on cherche, au plus on se rend compte qu'on ne connaît pas. Et au plus on ne connaît pas, au plus on cherche. Et au plus, etc. Parce que Dieu est tellement immense et tellement grand. Sa sagesse est tellement impressionnante que chaque jour, on a de quoi puiser là-dedans pour nos propres vies, comprendre. Et c'est aussi ça qui fait que les gens autour de nous diront mais d'où te vient cette connaissance? Je suis assez impressionné parce que ce n'est pas nous. C'est l'Esprit de Dieu qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. C'est cette recherche que nous mettons en pratique, non pas juste cette recherche du texte, du bon texte qui viendra justifier mon point de vue, mais c'est cette recherche de la pensée de Dieu qu'il y a derrière même ce texte, qui lui permettra de parler. Peut-être on peut apprendre la Bible par cœur, mais peut-être aussi on sera amené à la paraphraser, à dire « moi je sais que la Bible, voilà ce qu'elle veut dire ». Je sais, voilà ce qui est dit dans tes passages, voilà ce qui est dit là-dedans. Parce que Dieu a saisi nos cœurs. Et parce que derrière ça, son objectif, c'est de restaurer sa propre image dans nos vies. De restaurer sa propre image dans nos vies. L'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs et dans nos vies pour donner de la profondeur. Et de la même manière qu'il sonde, toute chose dans la pensée de Dieu, il veut amener cette pensée à nos propres pensées. Et c'est lui seul qui est en mesure de sonder nos vies. Même nous ne savons pas sonder nos vies. Même nous, chaque jour, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur notre propre vie. Parce que comme je l'ai déjà dit, on est une partie consciente et on est une partie inconsciente. Si mon cœur y bat, je ne suis pas en train de lui dire de battre. Ce n'est pas mon intelligence qui travaille. D'accord? Si ma main, mon doigt, il bouge, je veux bouger quelque chose et je le fais. C'est pas moi qui suis en train de dire voilà les muscles qui doivent être mis en action pour faire ça. Ce serait catastrophique. Et tout l'art et tout le sens de l'apprentissage, de la connaissance et de la découverte tient à ça. Au début, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. On le découvre par une parole. On le découvre par un texte. On le découvre par une connaissance qu'on ne comprend pas. On creuse, on se réfléchit, on médite sur cette connaissance. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qu'on sent et qu'on retire de ça. La petite étincelle. Et cette chose-là, donc, fait que on peut passer à d'autres choses. Ça y est, c'est acquis. C'est acquis. Acquérir des choses nouvelles. Chercher la nouveauté. Lorsque quelque chose... D'ailleurs, c'est dit, hein, même au niveau physiologique, un cerveau, pour qu'il puisse bien vivre, il faut toujours qu'il soit nourri de nouveautés. Dieu fait bien les choses. Il nous appelle à chercher de la nouveauté. Pas n'importe où, hein, encore une fois. Mais à chercher, à creuser, à aller plus loin avec Dieu, à toujours avoir cette curiosité qui fait qu'on n'est jamais satisfait. Ce n'est pas une mauvaise chose. On n'est jamais satisfait de ce que l'on connaît aujourd'hui, mais on veut connaître plus et plus encore. Et qui fait aussi qu'on réalise combien on est petit et combien on ne connaît pas. C'est pour ça que ceux qui connaissent et qui disent « Moi, ça y est, je suis arrivé », ils sont tout faux. Moi, ça y est, j'ai tout compris. Ils ont tout faux. Parce que la réalité, c'est au plus on cherche à comprendre, au plus on se rend compte qu'on ne comprend pas. Mais en même temps, en avançant, il y a des choses qu'on comprend. Ça va ? Parce que petit à petit, le chemin que l'on mène creuse dans notre propre vie une connaissance de Dieu toujours plus grande. Et c'est là, c'est ça que Dieu recherche pour nos propres vies. Et je vais terminer par ce passage. Et si quand même, je pensais à une chose, ouais. Je pensais à Moïse. Lorsque Moïse, toujours on en parlait tout à l'heure, mais lorsque Moïse il voulait rentrer dans le pays promis, il s'est mis en colère. C'est pas grand-chose. Il s'est mis en colère contre le peuple. Mais Moïse était le représentant de Dieu en face du peuple. Et à cause de cette colère, il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Parce que à ce titre, sa colère représentait faussement Dieu. Et si Dieu creuse dans notre vie, si Dieu creuse toujours plus loin, si on a de quoi creuser et aller plus loin, c'est parce que progressivement, Dieu met sa personne même en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une désincarnation totale de qui nous sommes. Mais c'est le fait que nos propres vies, si elles doivent être façonnées parfaitement, elles sont façonnées parfaitement par l'œuvre de Christ, par l'œuvre de Dieu dans notre vie, par cette œuvre qui prend corps en nous, cette image de Dieu qui est restaurée. Donc je vais prendre pour terminer donc, le verset dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il nous est dit... Paul dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais des tables de chair, sur les cœurs. » L'objectif de Dieu, c'est de travailler nos cœurs de plus en plus, d'inscrire sa loi dans nos cœurs, d'inscrire sa pensée dans nos cœurs et que nous puissions comprendre le sens de ce qu'il dit dans ses paroles, dans ses textes, que nous puissions aller plus loin, se poser les véritables questions à la recherche de sens, de vérité et de relation, de cette relation avec Dieu. Et ça vaut aussi pour chacun d'entre nous, mais ça vaut aussi pour l'Église de manière générale, dans sa mission, dans sa vision, dans ce qu'elle recherche. Ce n'est pas juste des grandes lignes, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu, pour que nos cœurs soient aussi, même troublés, mais transformés par la pensée de Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie de la pensée qui vient de toi, de cette pensée de ta parole, de la pensée de ta parole. Je te remercie pour la loi que tu nous as donnée au travers de la Bible, les textes que l'on peut lire et qui sont d'une grande richesse. Mais je te remercie aussi, Seigneur, pour tous les moments où, lorsque l'on peut lire un texte,
Lorsqu'on peut lire quelque chose, on se sent inspiré vers une compréhension, une connaissance plus grande, qui va au-delà des mots, qui va au-delà du simple texte. Je te remercie pour la sagesse que tu veux donner à chacun, de la direction que tu veux donner, Seigneur, à chacun aussi pour nos propres vies, pour les mener, Seigneur, non pas selon une série de choses qu'il faut faire ou ne pas faire, mais de compréhension que l'on peut avoir de toi, au travers des textes, au travers de ce que nous pouvons lire de toi. Seigneur, nous ne voulons pas seulement lire de toi, nous ne voulons pas seulement lire sur toi, nous ne voulons, Seigneur, te rencontrer et te avoir une relation, Seigneur, véritable et plus profonde toujours, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur, pour la profondeur de ta parole. Merci, Seigneur, pour la profondeur, Seigneur, de ton esprit qui creuse, Seigneur, dans nos vies quelque chose de nouveau. Et on l'a chanté tout à l'heure, quelque chose de nouveau. Seigneur, souffle sur nos vies. Apporte, Seigneur, quelque chose de nouveau sur nos vies, Seigneur, sur l'Église. Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, nous réjouir de ce que nous ne connaissons pas encore et qui vient de toi. Merci pour ta profondeur, merci pour ta grandeur, merci pour l'infini, Seigneur, et le vertige, Seigneur, qu'on peut avoir lorsqu'on pense à tout ce qui est hors de notre propre pensée. Merci, Seigneur, pour tout ça, Seigneur. Ça nous donne de penser combien tu es grand et combien, Seigneur, nous sommes petits, combien nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Seigneur, dans les décisions de nos vies, besoin de toi, Seigneur, dans les directions, Seigneur, de nos vies, besoin de toi, Seigneur, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, et nous ne voulons pas juste t'utiliser, Seigneur, pour nos besoins. Mais nous voulons vivre nos besoins avec toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ces paroles. Vous savez, on dit toujours que la parole de Dieu est vivante. Mais parfois, on le dit, mais c'est juste, ça reste juste un slogan. Mais il faut vraiment qu'on expérimente la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle peut être vivante. Et vous savez, dans le problème, c'est qu'en dans la Bible, assez souvent, par exemple, si je prends par exemple cette phrase du Christ qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, quand il dit vous connaîtrez la vérité, le problème, c'est qu'en français, en fait, le mot connaître, c'est très ambigu. Mais en fait, en grec, il y a plusieurs mots pour dire. Il y a le gnoxis, le gynosko, l'épigynosko, etc. Il y a beaucoup de termes pour dire connaître. Et en fait, quand on dit, quand Jésus dit ici, vous connaîtrez la vérité, c'est en fait c'est une connaissance qui, c'est le mot gynosko qui est utilisé. Et ce mot gynosko, c'est pour dire, c'est une connaissance expérimentale. C'est, en fait, c'est comme on utilisait dans l'Ancien Testament quand on dit Adam connut Ève et il engendra. Donc, en fait, c'est une connaissance expérimentale. Et en fait, la connaissance qu'on doit avoir de la parole de Dieu, ça doit être une connaissance expérimentale, une connaissance dans la pratique. Et c'est comme ça qu'en fait, que les gens, quand ils verront que nous connaissons la parole de Dieu dans la pratique et qu'on l'expérimente vraiment, que les gens verront que justement cette parole de Dieu est vivante. Et donc, du coup, on va expérimenter que la parole de Dieu est vivante. Donc, il ne faut pas que ça reste juste des slogans ou des phrases. Mais il faut vraiment expérimenter la parole de Dieu. Ok? Voilà. Je ne sais pas si Esther l'a acheté.
Ouais, en fait, c'est un peu bizarre de faire ça, mais pendant la prédication, et surtout aussi en rapport avec... Enfin, en fait, c'était très, très lié en rapport avec ce que Michael avait dit sur le fait qu'il y a l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. En fait, j'avais un petit témoignage il y a 10 ans quand j'étais aux États-Unis. Il y a un ami à moi qui était assez... Enfin, il passait beaucoup de temps avec Dieu à prier, et puis il était assez prophétique, en fait. Et il était venu me voir un jour en me disant... hier soir, j'étais vraiment... je priais pour toi et je sentais qu'il y avait vraiment un gros combat spirituel pour ta vie par rapport à un sujet. Je ne savais pas ce que c'était. Donc je continuais à prier. Et il dit, et tout d'un coup, j'ai vu une image. En fait, j'ai vu un arbre. Et c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il était pas très beau. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une balançoire. Et il y avait Jésus qui était sur la balançoire. Et toi, tu étais sur ses genoux. Et vous vous balanciez comme ça. Et tu rigolais. Et lui, il rigolait. Vous étiez trop content. Tu étais vraiment heureuse. Et il dit, et en fait, à ce moment-là, Jésus a dit, voilà, Esther, cet arbre-là, il ne sert qu'à une chose, à ce qu'on se balance dessus. Et c'était un peu étrange comme image. Mais en fait, avec le temps, le Seigneur m'a un peu parlé par rapport à ça. Et c'était juste sur le fait qu'en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a tendance à juger notre vie par rapport à ça, en fait, par rapport à la lettre, finalement, par rapport à ce que dit la Bible sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en fait, c'est vraiment ce que disait Jean-Philippe, c'est la relation. Ce qui est important, c'est dans ta relation avec Dieu, de toute manière, la source, si tu t'abreuves de cette source-là, tout ce que tu vas faire va jaillir de la vie, va jaillir de ce qui est bien. Et du coup, c'est pas, tu vas pas être dans la lettre qui tue, mais tu vas être dans la vie qui vivifie. Donc, voilà.
Merci pour ce bon témoignage. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous avez été touchés par la parole. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Continuez à vous accrocher à Dieu, à prier, à marcher dans la foi et que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vraiment vous aide dans tout ce que vous faites, vous inscrit dans tout ce que vous faites et soyez bénis. Et puis bon dimanche. Amen.